Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le procureur de la République, Yves Dupas. Bonjour.
Bonjour Elisabeth Noir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut dire que depuis plus de 6 mois maintenant, vous faites l'actualité tout à fait régulièrement et avec constance. Et nous reviendrons bien sûr dans cette interview sur les différentes procédures judiciaires qui sont liées aux émeutes qui ont débuté le 13 mai. Mais auparavant, on va commencer par l'actualité immédiate et notamment cette condamnation de Jacques Lallier, le président de la province des Îles, à 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans une affaire de favoritisme. Il va donc perdre son mandat, ou ça devrait être fait incessamment. C'est quoi cette notion d'exécution provisoire et comment la justice peut-elle interdire, entre guillemets, à un élu de faire appel d'une telle décision, ou en tout cas que la décision soit exécutoire immédiatement?
Eh bien, lorsqu'une juridiction prononce une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, elle considère que l'élu fautif, qui a été déclaré coupable, notamment pour des infractions à caractère financier, ne peut plus exercer ses responsabilités électives au nom de l'intérêt général, hein, notamment pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour donner un signal, hein, dans la collectivité concernée, la collectivité publique concernée, que ces manquements sont d'une gravité particulière aussi, qui justifie qu'il perde ses responsabilités électives. C'est la loi, c'est l'application de la loi. Alors voyez-vous, moi je suis très surpris d'entendre un certain nombre d'hommes politiques s'étonner que la justice applique la loi. Bah, la justice applique la loi, toute la loi. Et d'ailleurs, Édouard Philippe a eu sur ce sujet une position très claire en disant « mais la loi s'applique à tout le monde ».
Alors c'est en métropole surtout que cette disposition, qui est nouvelle, hein, l'exécution provisoire, c'est relativement neuf dans la loi, non? En tout cas, on en voit des applications aujourd'hui.
Ça n'est pas nouveau, hein, c'est une possibilité, hein, offerte aux juridictions.
On l'a vu notamment avec, bien sûr, le cas de Marine Le Pen. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même que le pouvoir judiciaire pèse sur le politique, intervient dans le politique en empêchant certains élus, quand ils sont inéligibles, de se représenter à une élection?
D'abord, il faudrait quand même rappeler que les hommes politiques, les élus, doivent prendre toutes leurs précautions pour éviter d'être mis en cause dans la commission des infractions, notamment des infractions financières. Ça, c'est quand même une première remarque, j'allais dire, basique. Et puis, les juridictions appliquent la loi. On nous demande, c'est notre rôle, hein, la mission des magistrats, du parquet, du siège, c'est d'appliquer la loi dans toute son étendue par rapport à un certain nombre de mesures. Et puis, vous savez, l'air du temps a beaucoup changé, hein, les petits arrangements entre amis, c'est fini. Je crois qu'il faut que les hommes politiques, s'oriente un vrai changement de comportement. Alors, ça a été progressif. Il y a eu un certain nombre de structures mises en place, hein, pour développer la transparence et dans la gestion d'un certain nombre de collectivités. Voilà, je crois que chacun doit respecter la loi et qu'il soit élu ou pas. Tout citoyen doit respecter la loi.
Ce qui interpelle aussi dans le cas de Jacques Lallier, c'est tout neuf, hein, c'est tout frais ça, de cette semaine, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres responsables politiques en Nouvelle-Calédonie qui sont poursuivis pour des faits similaires, voire plus graves, et pour lesquels il n'y a pas d'inéligibilité, il n'y a pas de procès encore. Et c'est là où les gens se disent, est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures? Est-ce que la justice ne juge pas tous les responsables politiques de la même manière?
Juste une précision par rapport à un dossier d'emploi fictif, hein, qui vise finalement un détournement de fonds publics. Un certain nombre de personnes comparaîtront à une audience fixée au 13 mai 2025 pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Elles sont pour l'instant présumées innocentes. mais l'audiencement pénal a un calendrier déjà suffisamment précis sur 2025.
Vous comprenez que ça puisse interroger, qu'il y ait un calendrier justement qui soit décalé comme ça pour des affaires qui sont peut-être antérieures et qui... Je vous pose la question, je pense qu'il y a un certain nombre de Calédoniens qui se la posent.
Les procédures pour Jacques Lallier avaient aussi une certaine ancienneté. Hein.
2020.
Voilà.
Autre fait d'actualité, un drame, la mort du grand chef Boirata Koumak. Vous avez immédiatement rendu l'information publique. On en est où aujourd'hui ?
Alors, dans cette procédure, le parquet a ouvert une information judiciaire hier soir des chefs d'homicide volontaire sur la personne du grand chef, de violence volontaire aggravée sur la concubine et sur une autre personne, hein, un membre de la famille. L'auteur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention. Décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur.
Ça vous inquiète que ce genre d'affaires soit récurrente en Nouvelle-Calédonie ?
Mais l'alcool et la violence, effectivement, aboutissent parfois à des drames. Hein. C'est assez terrifiant. Je crois que les exactions ne doivent pas nous faire perdre notre objectif, hein, de tenter de résoudre cette problématique de l'addiction à l'alcool, hein, qui est quand même l'une des caractéristiques de ce territoire. Même si dans les comportements que l'on constate, notamment dans nos procédures.
Même si les restrictions qui ont été mises en œuvre depuis le 13 mai ont, semble-t-il, produit leurs effets malgré tout ?
Oui, le couvre-feu et les mesures de restriction dans la vente des produits alcoolisés, effectivement, toutes ces mesures ont eu un impact. On freinait à la fois les infractions routières, hein, mais aussi effectivement certains comportements violents. Mais tout de même, on voit bien que les choses reprennent et restent en tout cas très prégnantes sur cette problématique qui est centrale.
Le 13 mai, ça fait déjà 6 mois et demi. On en est où dans les procédures judiciaires après ces exactions hors normes, après ce déchaînement de violence combien de personnes interpellées, combien d'enquêtes ont été ouvertes ? Vous en êtes où ? Où en est la justice ?
Alors la justice continue à remplir toutes ses missions. Hein, elle le fait depuis le 13 mai, mais nous poursuivons nos actions. Le parquet est en première ligne, hein, avec toute l'équipe du parquet. Nous sommes 9 magistrats au parquet à contrôler les enquêtes, hein, à orienter ces procédures, à décider du déferrement de certaines personnes, des convocations en justice d'autres. Aujourd'hui, quelques chiffres. C'est depuis le 13 mai et uniquement sur ce contentieux des exactions, c'est 2500 gardes à vue. C'est 500 déferments. Dont 261 personnes orientées en comparution immédiate. C'est 640 convocations en justice, donc ça alimente bien évidemment toutes nos audiences. 520 mesures alternatives, en tout 255 incarcérations, excusez-moi, et puis des ouvertures d'informations judiciaires, hein, une petite trentaine. Donc vous voyez... une situation hors norme pour nous. C'est vraiment une situation hors norme. Un travail exigeant, hein, d'analyse juridique de nos procédures, une orientation. Alors c'est à la fois la fermeté pour les infractions les plus graves, et nous y tenons à cette fermeté, parce qu'elle est justifiée. Et puis c'est aussi de la proportionnalité par rapport à d'autres faits. Je reviens sur certains faits de vol ou de recel dans des commerces. Effectivement, vous avez toute une série de personnes qui sont poursuivies, qui n'ont aucun antécédent judiciaire et qui ont trouvé là une occasion de récupérer du matériel électroménager dans certaines enseignes, de la nourriture ailleurs. Enfin, voilà. Donc, bien évidemment, pour ces personnes, ce n'est pas la peine de prison qui est la réponse adaptée. Hein, nous avons toute une série... de mesures qui sont possibles, le travail d'intérêt général pour celles qui n'ont pas d'activité professionnelle, ou une peine de jour amende hein, pour les autres. Donc payer une amende conséquente. Si ça n'est pas le cas, ce sont des jours de prison hein, qui interviennent. Bref, une proportionnalité. Donc une politique pénale claire, équilibrée, me semble-t-il. Mais en tout cas, l'idée, c'est que chacun, qu'il soit auteur ou complice par instigation de crimes ou délits, réponde de ses actes.
On a parlé de 10 000 insurgés, donc on n'en est pas là. Tous ne vont pas être poursuivis ou tous ne vont pas pouvoir être identifiés.
Bien évidemment, la vraie question, c'est la capacité d'abord d'identifier les auteurs des infractions les plus graves, notamment les crimes. C'est aussi, bien sûr, d'identifier l'ensemble des commanditaires hein, de ce mouvement insurrectionnel, parce que ce ne sont pas des émeutes, en fait, hein, que le territoire a vécu. C'est une déflagration insurrectionnelle sur fond de radicalisation identitaire. Il faut bien qualifier la situation et avec des faits de crimes et délits particulièrement graves. Hein, je pense bien sûr au meurtre du gendarme Molinari, à toutes les tentatives de meurtre sur les policiers et gendarmes. Je pense aussi aux destructions par incendie, aux pillages. Tout ceci, effectivement, nous amène sur le haut du spectre hein, des infractions.
Et alors, les commanditaires, on en est où ? Est-ce que l'enquête progresse pour savoir comment ce mouvement hors norme, vous le dites vous-même, vous parlez d'une déflagration insurrectionnelle, c'est parti d'où ? Ça a été commandité, orchestré, organisé par qui ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, cette insurrection a été préparée, a été coordonnée hein, dans sa mise en œuvre également. En tout cas, c'est notre hypothèse centrale. L'information judiciaire visant les commanditaires présumés se poursuit sous l'autorité de deux magistrats instructeurs. Je peux vous donner deux indications sur l'évolution de ce dossier. C'est qu'une 14e personne a été mise en examen donc il y a quelques semaines donc parmi ces commanditaires présumés. Cette personne a été placée sous contrôle judiciaire. Et par ailleurs, ce dossier connaît aussi une évolution, mais cette fois-ci du côté des victimes, puisque ce dossier voit effectivement apparaître des parties civiles, hein, puisque une constitution de partie civile a été déposée au cabinet des magistrats instructeurs de la part de structures économiques, d'enseignes commerciales qui ont subi un préjudice majeur.
Qu'est-ce que ça change dans le dossier ? Le fait qu'il y ait une constitution de partie civile ?
Nous avons des faits graves qui ont généré un préjudice économique et social majeur. Donc, effectivement, nous avons des victimes et qui sont en droit de voir réparer leur préjudice. Ça change un peu les choses parce que le ministère public est effectivement en charge de la défense des intérêts de la société. Les avocats des parties civiles défendent effectivement les intérêts privés des victimes. Mais bien évidemment, une procédure, c'est d'abord au centre des victimes qu'il faut prendre en compte dans leurs demandes.
Est-ce qu'on peut envisager, imaginer que les collectivités, provinces, communes, se portent partie civile également ?
Bien évidemment, toutes les
vous
victimes...
Vous les y encouragez, enfin vous souhaitez que...
Mais ça, c'est la responsabilité des victimes, qu'elles soient personnes morales privées, personnes physiques privées ou collectivités publiques. Hein, c'est leur responsabilité, mais... Ce qui est très important, c'est que, et ça vaut pour toute procédure pénale, hein, c'est que, effectivement, les droits de la victime soient respectés, hein, et qu'une victime peut bien évidemment se greffer à l'action publique en disant nous réclamons réparation de notre préjudice. C'est important.
Vous parliez d'une 14e personne mise en examen. Pas de révélation de son identité pour l'instant, mais c'est quelqu'un de Nouvelle-Calédonie. C'est un
Calédonien, notamment au stade des référents de quartier.
Alors, on sait que les enquêtes se poursuivent également, vous le disiez, et avec l'audition de plusieurs personnalités politiques, un certain nombre de noms sont sortis sur la place publique, entendus par la gendarmerie. Quelle suite est-ce qu'il faut en attendre? Et est-ce que certaines de ces personnalités pourraient être poursuivies, elles aussi?
Alors, c'est la responsabilité des deux magistrats instructeurs, hein, et bien évidemment, je ne peux pas répondre précisément à votre question, mais... l'information judiciaire, elle vise à rechercher, bien évidemment, toutes les responsabilités au stade, notamment, des donneurs d'ordre. Donc, c'est l'objet de cette information judiciaire, c'est l'objet de ce dossier, mais je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui.
Bon, ce sera pour plus tard. Les personnes qui ont été incarcérées en métropole en juin... On en est où? Qu'est-ce qui va se passer pour elles maintenant? Combien sont encore détenues, puisque certaines ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire?
L'information judiciaire se poursuit. Sur les 9 personnes mises en examen et incarcérées à partir du 21 juin, 6 sont toujours effectivement en détention provisoire. Donc 3 personnes mises en examen ont fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire aujourd'hui.
Mais en restant en métropole.
Dont 2 sont restées en métropole.
L'ensemble de ces personnes, quand est-ce qu'elles vont être jugées? Il faut instruire le dossier, ça prend du temps.
Il faut, pour ce travail d'enquête, entre 18 mois et 2 ans. Hein, parce que c'est un travail d'enquête très long. C'est effectivement de multiples investigations et donc il faut laisser du temps à la justice pour mener à bien ce type d'enquête avec une pluralité de personnes mises en examen, avec des faits graves, des victimes qui vont rentrer effectivement dans cette procédure. Donc voyez-vous... la manifestation de la vérité demande aussi du temps.
Le dépaysement de ces enquêtes avait été demandé, ça a été refusé dans un premier temps. On en est où là aussi?
Le procureur général de la cour d'appel de Nouméa a rejeté cette demande de dépaysement hein, qui était formulée par 5 personnes mises en examen. Le procureur général de la cour de cassation qui a été saisi décidé de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation qui devrait rendre une décision en janvier, en tout cas courant janvier.
Vous ne souhaitez pas, vous, que ce soit dépaysé ou...
Nous avions eu une position claire hein, au niveau du ministère public. C'était effectivement de poursuivre cette information ici sur le territoire en l'absence de critères objectifs justifiant ce dépaysement, voilà, la chambre criminelle tranchera.
Alors, leurs amis politiques, vous le savez, demandent leur libération. Ils en font même parfois un préalable à la reprise des discussions politiques. Est-ce que c'est un élément qui peut rentrer en ligne de compte ou est-ce qu'il y a une étanchéité entre la justice et le domaine de la politique?
Vous savez, le procureur de la République, il est en charge de la conduite de l'action publique. Il ne fait pas de politique. Je tiens à le redire ici. Donc, effectivement, les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas intégrer notre champ d'activité. Il faut être très, très clair. Les personnes qui sont présumées innocentes, qui sont mises en examen dans ce dossier... ne sont pas des prisonniers politiques. Elles ne sont pas incarcérées pour un mobile ou un motif politique. Hein. Je rappellerai quand même que ce sont des crimes et délits rattachés à la criminalité organisée qui leur sont reprochés. Donc, voilà. Pour le reste, je n'ai pas davantage commenter, ni entrer dans la moindre politique. Vous savez, la justice a besoin de sérénité, et j'y tiens, moi, à cette sérénité.
On va garder cette sérénité. Parmi les affaires non résolues, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a le meurtre du gendarme Molinari, c'était juste après le déclenchement des émeutes. Là aussi, l'enquête se poursuit, est-ce qu'elle progresse ?
Une information judiciaire est en cours et effectivement, les investigations sont menées vraiment avec détermination. Nous souhaitons, service d'enquête, magistrat instructeur, parquet, vraiment élucider cette affaire. À ce stade, je ne peux pas davantage commenter.
Et plus globalement, sur Saint-Louis, quelle est la situation ? Il y a encore des enquêtes en cours, il y a encore des personnes recherchées. On sait que plusieurs d'entre elles s'étaient rendues à un moment où c'était demandé, où ça pouvait être décisif, et aujourd'hui ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur Saint-Louis, nous avons quand même effectivement interpellé 16 personnes, qu'il nous reste quelques personnes à interpeller, notamment pour des faits de carjacking ou de tir effectivement en direction des forces de l'ordre. Donc le travail judiciaire est conséquent. Le but, bien évidemment, c'est que là aussi nous puissions terminer ces procédures dans les meilleurs délais et donc achever ces opérations d'interpellation qui sont toujours en cours pour quelques personnes, 3 ou 4 personnes.
Comment l'appareil judiciaire a pu s'adapter à une telle situation inédite ? Vous aviez assez de personnel, vous avez reçu des renforts. On en est où ? Est-ce que vous allez les garder, ces renforts, et jusqu'à quand ?
Alors, en fait, depuis le mois de juin, le tribunal de première instance de Nouméa a été effectivement renforcé, d'abord par des magistrats du siège et du parquet sur des délégations. Des délégations de 15 jours à un mois renouvelées. Et puis, depuis le mois de novembre, nous avons bénéficié d'un système de brigade qui comprend également des fonctionnaires. Donc 3 magistrats du siège, 1 magistrat du parquet et des fonctionnaires de greffe. C'est indispensable alors, pour nous aider à traiter ce contentieux. La difficulté, c'est que nous aurons un certain nombre de vacances de postes à partir de janvier, puisque nous dénombrons certains départs en mobilité ou des départs à la retraite. Et donc, finalement, ce renfort va d'abord permettre de couvrir certaines vacances de postes. Mais nous espérons en tout cas que cette brigade pourra être renouvelée à l'issue de cette période de 6 mois. Mais moi, je tiens à dire que vraiment, chacun dans ses fonctions, magistrat, greffier, avocat aussi, partenaire institutionnel, chacun a œuvré pour répondre aux besoins. C'est vrai que cette situation, elle est hors norme, je vous le disais. Prendre en charge, effectivement, autant de procédures, souvent marquées par l'urgence, finalement. Nous avons 261 personnes déférées en comparution immédiate, en plus. C'est beaucoup. Tout ce travail d'audiencement pénal, il est très lourd. Grâce à la disponibilité de chacun, le travail est effectué, les missions sont remplies. Et je tiens à saluer la disponibilité et l'engagement professionnel de chacun.
Il y avait l'urgence, vous le disiez, mais est-ce que ça s'est fait au détriment des autres affaires, de ce qui était déjà en cours, de ce qui arrive tous les jours ?
Alors, bien évidemment, certains contentieux, certaines enquêtes ont pris un retard. Bien évidemment, on ne peut pas assumer tous les fronts de manière concomitante pour traiter toutes les procédures. Donc, il y a un stock de procédures à traiter, il y a des enquêtes à reprendre. C'est tout l'enjeu de pouvoir effectivement reprendre ce travail de fond hors contentieux des exactions dans les meilleures conditions possibles.
Et pour revenir aux exactions, vous avez enfin, un certain nombre de personnes ont donc été condamnées à des peines de prison, à de l'incarcération. On sait que le camp Est était déjà avant en surpopulation. Comment c'est géré ?
Alors, nous avons pu compter d'abord sur certaines mesures de transfèrement. Alors, une quarantaine de personnes ont été transférées en surnombre vers le centre de détention de Koné, il faut le savoir. Puis, nous avons une soixantaine de personnes condamnées qui ont pu être transférées dans l'Hexagone, hein, ou parce qu'elles répondaient hein, au profil de longues peines, ou pour des peines effectivement déjà conséquentes qui leur permettent aussi de bénéficier des dispositifs de formation professionnelle dans les établissements de l'Hexagone. Donc ça a été très important pour nous, pour avoir cette capacité de traitement judiciaire avec une capacité d'incarcération pour les faits les plus graves.
Avec des personnes qui n'étaient pas forcément liées aux exactions,
non,
qui ont été transférées... Est-ce que le projet de la nouvelle prison qui avait été annoncé par le garde des Sceaux lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours à l'ordre du jour ? On sait que ça bouge beaucoup en métropole, qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes budgétaires.
À ce stade, ce projet demeure effectivement. Alors, il nous faudrait, d'ici l'ouverture de ce futur établissement, hein, dans 7 à 8 ans, il nous faudrait une structure intermédiaire, une capacité d'accueil, notamment par exemple dans un quartier de semi-liberté, pour alléger la surpopulation pénale dans l'établissement du centre pénitentiaire, et puis pour créer, j'allais dire, une progression dans l'exécution de la peine, hein, vers la préparation à la sortie. Ce serait, c'est impératif, ce serait intéressant en tout cas par rapport au profil des détenus.
Le centre de Koné permet quand même, c'est déjà un progrès dans ce domaine-là, c'est son but lui a priori, c'est de faire de la réinsertion.
Alors le centre de détention de Koné, c'est une belle structure, hein, notamment en matière de préparation à la sortie, de formation professionnelle. Il y a des sections d'apiculture, de maraîchage, de travail du bois. Tout ceci correspond aux possibilités d'emploi aussi sur le territoire.
Et ce matin, vous étiez à Dimbéa, par ailleurs, pour mettre en place là aussi une structure tout à fait nouvelle. Est-ce qu'elle à quoi va-t-elle servir ? C'est pour rapprocher la justice du citoyen ? Et est-ce qu'elle a vocation à être multipliée dans d'autres communes de Nouvelle-Calédonie ?
Donc effectivement, nous avons signé ce matin à Dumbéa une convention de partenariat sur l'accès au droit, hein, avec le conseil d'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. L'idée, c'est que l'accès au droit, c'est une politique publique, hein, qui doit permettre effectivement pour les Calédoniens d'être informés sur leurs droits. Leurs droits d'une manière générale, hein, ça peut concerner le droit du travail, les questions d'hébergement, les questions juridiques liées à des conflits de voisinage, bref, c'est très général. Et donc le Conseil d'accès aux droits, qui est une structure très jeune, qui a été créée l'année dernière, développer ces outils, commence à les développer hein, cette année. D'ailleurs, ce conseil a un site internet, hein, cad.nc, que chaque Calédonien peut visiter, et avec des permanences juridiques qui sont organisées, notamment dans les communes, et la ville de Dumbéa est la première à avoir répondu à la création de ce point justice. L'idée, c'est de développer la proximité de cette politique d'accès aux droits, donc en direction des citoyens, en direction des Calédoniens, et avec bien évidemment l'idée d'étendre au plan territorial hein, cette politique au profit des Calédoniens qui sont les plus isolés, en brousse, aux îles. Donc une bonne mesure qui montre que même lorsque la Nouvelle-Calédonie est à genoux, eh bien, il se passe des choses positives. Moi, j'étais au conseil local de prévention de la délinquance de Bouraille, donc hier. Eh bien, nous avons découvert un certain nombre d'actions concrètes menées par l'équipe municipale, et notamment une action de sensibilisation à la sécurité routière. 30 personnes ont été admises dans cette action. 15 personnes ont été reçues à l'examen du permis de conduire, hein, avec l'aide de la municipalité. Même chose, il y a un chantier jardin de jeunes qui a été créé avec 6 jeunes, dont 2 ont repris des études. Vous voyez, des choses très positives, très concrètes. Mais il faut, c'est en tout cas la lecture que l'on peut faire aussi, l'analyse que l'on peut avoir des exactions, hein, commises depuis le mois de mai. Je crois qu'il faut effectivement s'atteler un vrai plan de prise en charge de ces jeunes, hein, de ces jeunes qui, dont certains ont dévissé, hein, se sont perdus dans la violence, dans la violence très, très grave. Il ne faut pas effectivement laisser cette jeunesse sans issue. Et donc c'est très très important, hein, le sort de la jeunesse dans cette Nouvelle-Calédonie qui doit être reconstruite. Donc voilà des éléments qui me semblaient intéressants. Et puis dans les échanges entre communautés, c'est vrai qu'au cours des exactions, ce sont nos procédures qui nous l'ont indiqué et nous l'ont rappelé trop régulièrement. Nous avons pu effectivement percevoir un certain nombre de comportements marqués par une haine raciale. Eh bien, il faut restaurer, hein, le respect entre communautés et effectivement effacer certains comportements qui ont meurtri, hein, les relations entre ces communautés lors des exactions. Vous voyez, c'est tout un travail de réparation qui s'impose, alors qu'il dépasse largement le champ de la justice, hein. Mais ce sont des lignes directrices, hein, jeunesse, respect et entre les communautés, des directions qui semblent très très importantes, en tout cas à prendre dans les mois qui viennent.
Il y a du travail en tout cas dans les mois qui viennent, monsieur le procureur de la République. Merci d'accepter notre invitation ce midi.
Merci à vous.
La fin de ce magazine Transparence.